20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, une escapade à Venise ce soir. Venise où se tient en ce moment un cycle de concerts dédié à Fauré, un cycle du Palazzetto Bruzane qui se déclinera ensuite à Paris. Il est question ici de Fauré le pédagogue et de sa filiation. Nous en parlerons tout à l'heure avec Alexandre Dradwicki, le directeur du Palazzetto Bruzane, ainsi que le pianiste Franck Bralet et l'altiste Nathanaël Ferreira, l'un des jeunes musiciens de la chapelle Reine-Élisabeth de Belgique, associé à ce cycle. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. C'est ce soir que débute la nouvelle édition des Chants d'Ulysse, Académie internationale pour chanteurs et instrumentistes, dirigée par Patricia Petitbon et Héloïse Gaillard, qui se tient jusqu'au 4 mai au Théâtre Le Dôme de Saumur et à l'Abbaye royale de Fontevraud. Un projet pédagogique original basé sur la transversalité et la pluralité des disciplines, à savoir chant, théâtre, danse, mais aussi costume, maquillage et même exercice de pilates pour prendre soin de son corps et gérer le stress. Alors le concert de clôture avec l'ensemble des jeunes participants à cette académie aura lieu samedi 4 mai au Théâtre de Saumur et l'entrée est libre. Autre rendez-vous dédié à la jeunesse, l'édition Nouvelle Génération de l'Esprit du Piano qui se tiendra du 30 avril au 7 juin à Bordeaux, une déclinaison de ce festival qui accueille chaque automne les plus grandes étoiles du clavier et mise donc au printemps sur les nouveaux talents. L'occasion de découvrir des personnalités passionnantes venues du monde entier dans divers lieux de la ville et des châteaux alentours. Ce que nous souhaitons dans l'élan de la jeunesse n'est pas une énième compétition, mais au contraire un partage de joie et de la liberté des sensibilités exprimées, nous dit Paul-Arnaud Péjouan, le directeur artistique de la manifestation. Alors ces jeunes pianistes que vous découvrirez peut-être si vous avez la chance d'être à Bordeaux s'appellent Gabriel Durlia, Diana Cooper, Constant Després, Samuel Apoutou, encore Ching Li. Et c'est Jodeline Galavardin qui donnera le coup d'envoi le 30 avril au théâtre La Pergola de Bordeaux. Jodeline Galavardin que l'on écoute ce soir jouer Schubert. Thank you. Le Lied auf dem Wasser zu singen de Schubert, arrangé par Liszt, joué par Jodeline Galavardin. Elle sera en récital mardi soir à Bordeaux. Elle donnera ainsi le concert d'ouverture de L'Esprit du piano, version jeune talent.
Laure Maison sur Radio Classique.
Et se tient en ce moment à Venise et jusqu'au 23 mai tout un cycle du Palazzetto Brusane dédié à Fauré et ses élèves. Des concerts qui mettent donc en avant le rôle du compositeur français auprès des générations de compositeurs qui l'ont suivi et qu'il a lui-même formé. Car Fauré a enseigné la composition pendant 10 ans au Conservatoire de Paris avant d'en prendre même la direction. Lui qui ne venait pas du Sérail, puisqu'il a été formé dans une autre institution, l'école Niedermayer, a développé une pédagogie tout à fait pertinente pour son temps, comme nous le raconte Alexandre Dradvicki, le directeur du Palazzetto Brusane.
Précisément, Fauré est intéressant parce que, n'étant pas formé au conservatoire, il est très ouvert d'esprit. Son cursus n'est pas basé sur le fait de passer le prix de Rome, ce qui veut dire en fait de s'intéresser à l'opéra et à la voix dans une dimension théâtrale et dramatique. On sait que c'est ce que Bizet, Massenet et Gounod ont travaillé quasiment tout le temps pendant leurs années conservatoires. Pour le coup, non seulement Fauré s'intéresse à la musique religieuse, et donc c'est un traitement de la voix plutôt contrapuntique, de la voix d'ensemble plus que de la voix soliste, mais aussi à la musique instrumentale. Et donc, que ce soit lui qui soit l'un des maîtres du quatuor avec piano, du quintet, du trio, ça n'est pas si étonnant parce qu'il est tout de suite complètement libéré des obligations lyriques pour se soucier d'autre chose. Et ça s'entend immédiatement.
Alors Fauré a enseigné une dizaine d'années la composition au Conservatoire de Paris. Il a succédé à Jules Massenet. Sa classe était très réputée, très recherchée.
Le fait que Fauré remplace Massenet comme professeur de composition est un signal très fort d'un point de vue pédagogique parce que c'est la reconnaissance que un cursus non traditionnel peut ensuite permettre d'enseigner dans ce genre d'institution. En revanche, comme on peut l'imaginer, les élèves qui briguaient surtout le prix de Rome et la pédagogie plus traditionnelle ont certainement dans un premier temps gardé leur distance avec Fauré, et je pense que c'est surtout quand il devient directeur du conservatoire quelques années plus tard qu'on lui reconnaît typiquement une reconnaissance officielle qui n'est pas qu'honorifique puisque Fauré va vraiment radicalement revoir la pédagogie conservatoire.
Alors il a eu des élèves très célèbres au langage, au tempérament très divers. On pense à Ravel, on pense à Nadia Boulanger, on pense à Koechlin, on pense à Enesco. Il a su mettre en avant justement la singularité de chacun, la personnalité de chacun.
Fauré, n'ayant pas reçu une éducation musicale traditionnelle, un enseignement traditionnel à l'école Niedermayer, en tout cas pas celui du conservatoire, il a très naturellement reproduit ce principe avec ses élèves. On le sait d'ailleurs qu'il a très tôt engagé chacun à être lui-même. Et ce que le cycle du Palazzetto Brusane cette année souhaite montrer, c'est justement qu'en s'intéressant aux premiers opus des élèves de Fauré, évidemment c'était ça l'intéressant, c'était pas d'aller dans les œuvres de maturité, mais de rester dans les œuvres de jeunesse, on a tout de suite des personnalités qui se dégagent. Certaines plus radicales que d'autres, mais j'ai envie de dire qu'aucun ne fait simplement du Fauré, alors que chez les élèves de Massenet, même très tardivement, on en a beaucoup qui font très bien, mais qui ne font, j'allais dire, que du Massenet.
Mais est-ce qu'en même temps, il revendique l'héritage fauréen ? Est-ce que l'on perçoit l'influence fauréenne ? Et est-ce que cet héritage fauréen, quelque part, il a perduré au-delà des générations ?
J'ai l'impression que les élèves de Fauré ont surtout prôné la transformation de l'enseignement et la transformation de la musique française. Le problème, c'est que presque tous sont oubliés aujourd'hui, ou en tout cas minorisés dans la musique romantique française, parce qu'en fait, ils sont sur une période de transition qui a connu notamment la Première Guerre mondiale. Et donc, non seulement le style français va basculer à ce moment-là, mais en plus, pour des raisons très pragmatiques, d'éditeurs, de concerts qui n'ont pas lieu, il y a une vingtaine, une trentaine d'années qui disparaissent. Et c'est en fait toute l'école post-romantique française. Et finalement, la radicalité à la fois allemande et puis ensuite de la musique française après la Deuxième Guerre va complètement faire oublier ses auteurs. Donc après revaloriser Fauré, c'est bien sûr eux qu'il nous faudra revaloriser.
Mais le rapport de Fauré à la modernité, Fauré qui a vécu très longtemps, dont le langage a beaucoup évolué, vers une modernité assez singulière qui ne s'apparente pas aux grandes écoles de l'époque. Comment la décririez-vous, cette modernité fauréenne, Alexandre Dradvicki?
J'ai l'impression qu'en fait, Fauré, c'est un compositeur encore romantique dans la pensée mélodique, qui nimbe ses mélodies et ce romantisme d'harmonie qui sont une forme de symbolisme, peut-être moins radicale que celle de Debussy ou celle de Ravel. Et le problème, justement, c'est que quand on est un artiste de l'entre-deux et qu'on n'est pas dans la rupture éventuellement un peu violente, finalement, l'histoire de la musique ne vous retient pas comme étant une définition esthétique d'une époque. Fauré, j'ai vraiment cette impression, mériterait de figurer dans les tournées des grands orchestres français, à qui on demande en Asie, aux États-Unis, de jouer de la musique française. Donc c'est évident Berlioz qui est radicalement novateur, et puis Debussy, Ravel qui le sont tout autant. Et Fauré, si on choisissait bien les œuvres, mériterait de figurer dans ces programmes. Il faut aussi néanmoins préciser que dans la musique lyrique d'opéra et dans la musique symphonique, Fauré n'a pas laissé tant de choses que cela, et qu'en plus une partie des pièces d'orchestre, ce sont des orchestrations de ses élèves.
Et en tant que directeur du Conservatoire de Paris, qu'est-ce qu'il a fait évoluer fondamentalement dans la vie musicale française ? Fauré, notamment la place des femmes, s'est développée sous l'ère de Gabriel Fauré ?
On voit que dans la classe de composition de Fauré, donc avant même qu'il soit directeur, beaucoup de noms féminins circulent. Cela dit, c'était plus une habitude qu'on l'imagine aujourd'hui. Simplement, souvent ces compositrices ou ces jeunes compositrices en herbe n'allaient pas au-delà d'un certain niveau d'études. Mais effectivement, Fauré non seulement va donner une place plus importante aux compositrices, c'est aussi quelqu'un qui va donner à des enseignements comme l'orchestration, certains instruments hein, comme la harpe chromatique, l'alto, le tuba, une place qu'il n'avait pas avant. Et donc, sous son mandat, on voit s'ouvrir des classes, on voit aussi un rapport à la musique instrumentale changer, puisque dans la programmation des concerts que donne le conservatoire, on voit bien qu'on n'est plus seulement dans l'idée éternelle de valoriser l'opéra, mais qu'on arrive vraiment à valoriser les jeunes interprètes à travers des œuvres instrumentales qui les valorisent beaucoup plus que ce qu'on faisait dans le passé.
Un extrait du premier quatuor avec piano de Gabriel Fauré, joué par le pianiste Franck Bralet avec deux jeunes musiciens de la chapelle Reine-Élisabeth, le violoniste Awish Elders, l'altiste Nathanaël Ferreira et le violoncelliste Alexei Chadrin. Capté en concert, c'était le 13 avril dernier à l'auditorium Lo Squero de Venise, dans le cadre du festival du Palazzetto Brusane et en collaboration avec Assolo Musica. Un concert magique qui se tenait dans cet auditorium dont le fond de scène est une vitre montrant la lagune. Ce concert associait des œuvres de Fauré et de l'un de ses élèves, Georges Enesco. Alors Franck Bralet et le jeune altiste Nathanaël Ferreira se sont confiés, juste avant ce concert, sur leur lien avec Fauré et sur cette notion de transmission.
Alors c'est un compositeur qui est très important dans la musique française, mais c'est vrai que c'est pas un compositeur que j'ai énormément joué, alors plus en musique de chambre qu'en piano solo, il y a les nocturnes qui semblent sublimes, mais moins que les autres compositeurs français.
Nathanaël Ferreira, en tant que jeune musicien, en tant que jeune altiste, en tant que brésilien, quels étaient vos liens avec Fauré ? Est-ce que c'est un compositeur que vous connaissiez, vers lequel vous étiez attiré ou pas forcément au début ?
Moi, je pense que c'est un compositeur très, très important pour la musique française, surtout pour l'alto. Les quatuors de Fauré, ça apporte beaucoup de choses. Il y a beaucoup de solos d'abord, et il explore la tessiture de l'alto même. Il ne va jamais vers les aigus, il reste quand même dans la voix humaine. C'est sublime.
Alors, vous jouez le premier quatuor de Fauré que vous associez à une œuvre de l'un de ses élèves dans le cadre de ce cycle qui met en avant le rôle de Fauré, la filiation de Fauré. Et cet élève, c'est Enesco. Est-ce que quand vous jouez la musique d'Enesco, vous pensez à Fauré ? Vous percevez des influences de Fauré ?
Alors, on pense à Fauré pour la richesse harmonique, pour l'invention harmonique, qui va vraiment très très loin. D'ailleurs, on s'est posé la question de l'ordre du concert, et finalement, quand on a décidé de jouer Enesco avant Fauré, c'est aussi parce que Enesco demande une grande concentration, je pense, pour le public, pour nous aussi, parce que c'est une pièce immense, qui a des dimensions vraiment impressionnantes, avec un mouvement lent qui fait, je crois, près de 20 minutes. Et Fauré, en tout cas le jeune Fauré, après Enesco, sonne presque comme de la musique classique. Ça paraît absolument transparent, évident. Donc Enesco va, entre guillemets, plus loin que son professeur dans l'invention, dans la recherche, dans l'étrangeté aussi, parfois, avec un final étonnant qui commence à moi, qui me fait penser bizarrement à Shostakovich dans le minimalisme et dans la violence presque, alors qu'il n'est pas du tout fauréen. On retrouve plutôt l'influence de Fauré dans le deuxième mouvement, avec des passages très magiques, contemplatifs, un peu étranges. Il y a vraiment une étrangeté très particulière qui rappelle Fauré.
Comment vous, Nathanaël, vous le percevez, ce quatuor d'Enesco ?
Moi, d'abord, je pense que les mariages Fauré-Enesco, c'est parfait. Mais je trouve que le quatuor d'Enesco, en première approche, il n'est pas facile d'entendre. Mais, au fur et à mesure, je pense qu'il y a quelque chose qu'on trouve d'assez spécial chez Enesco, qu'on voit dans ses grandes œuvres, comme le quatuor d'Enesco. Là, sur l'équateur, pour moi, c'est une découverte.
Alors, ce concert s'inscrit dans le cadre de ce cycle Fauré, le maître et ses élèves. Fauré savait merveilleusement mettre en avant la personnalité de ses élèves, était un professeur assez exemplaire. Quand vous jouez, Franck, avec des jeunes musiciens qui ont chacun leur personnalité, quand vous enseignez à ces jeunes musiciens, comment faire en sorte pour que justement leur personnalité s'épanouisse, s'exprime, tout en étant en même temps un modèle? Comment trouver le bon équilibre?
En l'occurrence, je les prends plus comme de jeunes collègues qui commencent à entrer dans la vie musicale, mais qui pour beaucoup d'entre eux jouent déjà depuis plusieurs années régulièrement en concert. Et là, en musique de chambre, je suis même parfois à leur service. Je suis là pour les porter, pour les aider. Nathanaël parlait de grands solos. Et la partition de piano est une partition très chargée avec laquelle il faut savoir justement laisser de la place. On entend le bruit des vagues tout près d'ici, il ne faut pas avoir une vague de 3 mètres qui les recouvre totalement. Ce qui est merveilleux dans cette activité musicale, c'est qu'en fait l'âge est une pure illusion, enfin toutes les générations se mélangent. Et pour répondre à votre question un peu plus précisément, au niveau auquel ils entrent à la chapelle, là je parle de mes étudiants en piano, c'est plus en quelques années de leur donner la possibilité de déployer leurs ailes, c'est-à-dire de révéler en fait tout leur talent, toute leur potentialité, d'essayer de faire en sorte que quand ils sortent de la chapelle, ils se sont révélés à eux-mêmes.
Et justement, Nathanaël, de partager la scène avec Franck Bralet, qu'est-ce que cela vous apporte? Vous arrivez à avoir des relations de partenaire à partenaire, d'oublier le professeur ou l'aîné, et en même temps de vous laisser porter?
Moi, je pense que c'est tout à fait le jeu parfait pour nous, en tant que jeune artiste en résidence, parce que c'est de là où on va trouver, on va être une éponge, on va prendre qu'est-ce qu'il nous faut pour améliorer, on va savoir à discuter, on commence à échanger toutes les idées. Moi, je pense que c'est juste une opportunité unique, en fait, qu'on ne trouve pas très souvent. Et à la chapelle, je pourrais dire que c'est quand même un endroit magique pour ça.
Et jouer à Venise?
Jouer à Venise, je pense que ça change un peu du Brésil. C'est très, très beau.
Vous bénéficiez d'une scène assez exceptionnelle avec vue sur la lagune.
Alors c'est dommage, ça passe mal à la radio. Mais c'est vrai.
On a les vagues.
Voilà, on a le bruit des vagues, mais tout le fond de scène, c'est une immense baie vitrée qui donne directement sur la lagune. Pour moi, pianiste, c'est un petit peu compliqué parce que mon œil est attiré vers l'extérieur. J'ai envie de simplement regarder les bateaux passer, mais il y a assez de milliers de notes à faire dans ce répertoire pour rester concentré sur la partition et sur mes collègues qui sont à droite, de l'autre côté. Thank you.
Un petit extrait de l'impressionnant quatuor pour piano et cordes d'Enesco, joué par Franck Bralet, Awish Elders, Nathanaël Ferreira et Alexei Chadrine à l'occasion de ce concert donné le 13 avril dernier à l'auditorium Los Cuero en collaboration avec Azzolo Musica. Un concert donné dans le cadre de ce cycle Forêt et ses élèves qui se poursuit à Venise jusqu'au 23 mai avec notamment des artistes de l'Académie de l'Opéra National de Paris qui se produiront le 16 mai au Palazzetto Bruzane mais aussi le 23 mai à Paris à l'Amphithéâtre de l'Opéra Bastille. Car outre dans le domaine de la musique de chambre, Forêt a été une référence pour bien des compositeurs dans celui de la mélodie comme nous le raconte Alexandre Dradvicky.
Si on ne doit retenir qu'une chose de Forêt, bien sûr c'est la mélodie, quoique tout le monde le sait, il y a des heures et des heures de mélodie de Forêt et souvent on en connaît à peine 20 minutes très bien et le reste disparaît dans l'oubli ou n'a même pas eu le temps d'être célèbre. Et puis on oublie aussi que chez Forêt il y a quelques-unes, mais enfin des mélodies orchestrées par lui-même, c'était quelque chose qui faisait beaucoup à l'époque. Ses plus beaux titres comme Les Roses d'Ispahan, En prière, ont été orchestrés et ne sont jamais donnés. On vient d'en faire une nouvelle édition pour essayer de les promouvoir davantage au concert. La mélodie chez Forêt, c'est intéressant parce qu'en fait, il n'écrit pas de la mélodie à la manière opératique comme le font Duparc ou d'autres qui demandent de grandes voix, qui sous-entendent l'orchestre ou qui appellent l'orchestre d'ailleurs. Et donc chez Forêt, ce qui est intéressant, c'est que c'est une musique qui s'adresse aussi à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de l'opéra ou les envies d'opéra. Et puis chez Forêt, ses premières mélodies, ses premières œuvres, ses dernières mélodies, c'est ses dernières œuvres. Donc ce n'est pas comme chez d'autres, un genre qu'il a abandonné ou qu'il n'a touché du doigt que très tardivement.
Vous sentez un intérêt de la part des musiciens, voire de la jeune génération de musiciens pour Forêt, ou est-ce que c'est un univers qui leur paraît encore assez étrange aujourd'hui ?
J'ai l'impression que la musique française des années 1900-1920, si on nommait Debussy et Ravel, est une musique qui est de plus en plus intéressante pour les jeunes générations, notamment parce qu'il y a beaucoup de femmes et qu'aujourd'hui, où c'est devenu à la mode, mais dans le bon sens du terme à mon avis, en tout cas c'est une nécessité de promouvoir les compositrices, il y a là un vrai choix d'œuvres intéressantes à faire chez des élèves de Forêt ou des connaissances comme Melbonis ou d'autres. Et puis je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus peur chez Forêt de se tourner vers des œuvres éventuellement plus romantique que ce qui se faisait dans le passé. Alors bien sûr, il y a les nocturnes et les barcaroles, mais aussi chez Forêt, il y a des choses, y compris dans les mélodies, qui sont peut-être plus fleurs bleues, qu'on a écartées après 1945, quand il ne fallait faire que de la musique intellectuelle et pour cela de la musique impénétrable. C'est un peu mon sentiment parfois. Et je crois que chez Forêt, on peut aujourd'hui retrouver la balade avec orchestre ou des mélodies de jeunesse et les jouer, les entendre, les interpréter pour ce qu'elles sont. Et en fait, touchantes, tout simplement.
Alors on est ici à Venise. Quels étaient les liens de Forêt avec Venise ?
Forêt fait partie des compositeurs qui ont profité du mécénat de la princesse de Polignac et alors de la comtesse Gréfulle par ailleurs, et en fait on va dire en général de la mondanité parisienne qui venait à Venise pendant les mois de printemps ou d'automne. Et Forêt est venu, il a écrit ses fameuses mélodies de Venise, mais je voudrais croire surtout qu'il s'est inspiré de Venise plus généralement. Je ne sais pas si on peut imaginer que les barcaroles de Forêt pour piano soient toutes des œuvres empreintes de Venise, mais on doit bien imaginer que certaines oui. Et puis vous savez, c'est ce que disait Poulenc, Stravinsky ou d'autres, ou Reynaldo, c'est que venir à Venise, ce n'est pas forcément pour faire de la musique à l'italienne, c'est juste avoir le temps de respirer, avoir le temps de se far niente à l'italienne, positif, pour retrouver l'inspiration, se ressourcer tout simplement. Et aucun doute que Forêt en a profité comme ceux qui sont venus.
Alors vous célébrez Forêt ici à Venise dans le cadre de ses concerts du Palazzetto Bruzane. Est-ce que Forêt sera à l'honneur également dans le cadre du festival parisien dans quelques semaines ?
Nous essayons de teinter toute notre saison de Forêt dans quelques pays que nous allions. Tout récemment, c'était en Italie, à Padoue ou ailleurs d'ailleurs en Europe. Et puis, effectivement, lorsque nous arriverons à Paris au mois de juin pour notre festival annuel, nous aurons des rendez-vous consacrés à Forêt. Et l'un en particulier que je veux mentionner, c'est l'Orchestre National de France qui, bon, avec un nom comme ça, c'était un peu une évidence, mais il faut quand même le rappeler, qui joue tout à fait le jeu de rendre hommage à Forêt avec un gala Forêt, uniquement des œuvres de Forêt, certaines très connues, mais surtout des pièces comme la fantaisie pour piano et orchestre, qui n'est pas la balade pour piano et orchestre, qu'on n'entend jamais. En l'occurrence, c'est une des dernières œuvres de Forêt, et je trouve que c'est formidable qu'un orchestre d'une telle réputation et avec un nom tel que celui-ci, Orchestre National de France, rende hommage avec nous à Gabriel Forêt.
Voilà, avec Magena Diacoun et Lucas Debar qui étaient à notre micro il y a quelques jours, qui sont aussi des amoureux de Forêt. Merci beaucoup Alexandre Dradvicky.
Merci.
disparant dans l'argaine de mousse, les jasmins de Mossoul, les fleurs de l'oranger. Tout un parfum moins frais, tout une odeur moins douce, tout touche les mains, tout souffle léger. Ta lèvre est de corail et ton rire léger sonne mieux que l'on vit.
Les roses d'Ispahan, une mélodie de forêt chantée par Véronique Gens avec Hervé Niquet et l'orchestre de la radio de Munich. Un extrait d'un merveilleux album sorti chez Alpha intitulé Paysages, mettant à l'honneur la mélodie française avec orchestre. Mélodie française, mélodie de forêt notamment, que célébreront les artistes de l'Académie de l'Opéra National de Paris. Ils seront le 16 mai à Venise et le 23 à l'Amphithéâtre de l'Opéra Bastille, dans le cadre de ce cycle « Forêt et ses élèves » du Palazzetto Bruzane. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Laetitia Montanari pour sa réalisation. Lundi, il sera question de l'ère de cour du XVIIe siècle avec notre invité François Lazarevitch, le chef des musiciens de Saint-Julien. Mais tout de suite, votre soirée se prolonge en musique sur Radio Classique avec Francis Drezel.